L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la réforme du travail et aux troubles qu'elle jette dans l'actuelle majorité. Remis la semaine dernière au Conseil d'État par la ministre du Travail, Myriam El-Khomri, l'avant-projet de loi de réforme du Code du Travail a provoqué la mobilisation de l'ensemble des confédérations syndicales, à l'exception de la CFTC, et accentué les tensions à gauche, déjà fortement divisées par le débat sur la déchéance de nationalité. Cet avant-projet fait suite au rapport établissant la liste des 61 principes fondamentaux du droit du travail, rapport commandé par le gouvernement à une commission présidée par Robert Badinter. Myriam El-Khomri propose une réécriture du Code du travail, notamment de la partie qui concerne la durée du travail et les congés. La limite haute du temps de travail passe à 46 heures au lieu de 44 et à 12 heures par jour au lieu de 10. Le taux de majoration des heures supplémentaires ne sera plus obligatoirement fixé par l'accord de branche, mais pourra être issu d'accords d'entreprise. La négociation collective pourra être réglée par référendum dans les cas où un accord d'entreprise n'est pas majoritaire parmi les syndicats. En cas de licenciement abusif, les indemnités prud'homales seront limitées à 15 mois de salaire pour un employé ayant 20 ans ou plus d'ancienneté. Ces mesures et quelques autres donnent satisfaction au MEDEF qui appelle depuis 2012, je cite, à donner la priorité aux accords dans les entreprises par rapport aux accords de branche. Alors qu'il ne s'agit que d'un avant-projet, comme l'a rappelé le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis, le texte a suscité l'indignation de la gauche et d'une partie significative de la majorité. Martine Aubry a choisi ce moment pour signer dans Le Monde un texte très critique de l'action du gouvernement, dont le projet de loi provoque, dit-elle, je cite, « non plus de la déception mais de la colère ». Une rencontre intersyndicale s'est tenue mardi dernier sur invitation de la CGT, à laquelle les confédérations étudiantes et lycéennes étaient également conviées. 9 syndicats ont publié un communiqué dénonçant l'absence de concertation et réclamant le retrait de plusieurs mesures. Ils doivent se revoir jeudi prochain. Myriam El-Khomri présentera son projet de loi en Conseil des ministres le 9 mars. D'ici là, il est susceptible d'évoluer en fonction des discussions entre les partenaires sociaux, mais Manuel Valls a fait savoir que son gouvernement irait jusqu'au bout. Le texte devrait arriver en avril à l'Assemblée nationale. Sur cette question, Thierry Pech.
Alors, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup d'agitation politique, de déchirement autour de ce texte. Vous avez rappelé la tribune qu'a signée Martine Aubry, la pétition de Caroline Dehaas, qui a recueilli quand même plus de 500 000 signatures. Hein, c'est un phénomène. Manifestement, ce texte déclenche un débat important dans le pays, pas simplement à gauche, mais c'est vrai, beaucoup à gauche. Alors, cela dit, c'est un texte qui est extrêmement complexe et difficile, et il y a aussi beaucoup de simplifications en circulation et quelques contre-vérités. Donc, plutôt que de commencer par le commentaire politique, je crois qu'il faut vraiment s'attacher au commentaire du texte lui-même. Il a, ce texte, deux axes de cohérence. Le premier axe de cohérence, sur lequel on n'insiste pas assez, mais quand on lit les 130 pages de l'avant-projet, ce que, pour ma part, j'ai fait, on s'aperçoit que le point le plus saillant, c'est la négociation collective, qui prend une place considérable dans de très nombreux domaines, notamment en matière d'organisation du temps de travail. Négociation collective et en particulier accord d'entreprise. Ce qui est dans la foulée, ce qui est dans la foulée des rapports qui étaient parus au début de l'année. Combrexel, celui de Terra Nova, désolé de nous citer nous-mêmes, celui de l'Institut Montaigne et quelques autres. Deuxième axe de cohérence, donc ça c'est premier axe de cohérence, c'est un axe assez social-démocrate. Deuxième axe de cohérence, c'est un texte qui donne plus de flexibilité aux entreprises. trop, diront certains, peut-être, avec pas assez de compensation, diront d'autres, peut-être aussi, j'y reviendrai, mais c'est le deuxième axe de cohérence de ce texte. Alors ce texte, il a malgré tout, cet avant-projet, il a deux défauts. Il a des défauts d'abord de contenu, me semble-t-il. La barémisation des indemnités pour licenciement abusif au prud'homme pose problème. Elle pose pas problème comme dans la version 1 qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui était la version de la loi Macron. Elle pose problème pour d'autres raisons. La première raison, c'est qu'elle fait sauter les planchers. Il y avait des planchers, vous savez, dans la première proposition, qui étaient protecteurs, notamment pour les employés, qui introduisaient de la sécurité juridique pour les employés. Et elle dispose des plafonds qui sont assez bas, plus bas que ce que proposait la loi Macron. Et donc on se trouve avec un texte qui est plutôt un recul du point de vue social par rapport à ce qui avait été proposé dans la première version. Deuxième point, moi je suis sceptique sur ce qui est proposé en matière concernant les motifs de licenciement économique. Le texte dispose que dans un certain nombre de cas, on pourra reconnaître à l'employeur un motif sérieux de licenciement économique. Et parmi ces motifs, il y a notamment des critères comptables concernant l'entreprise. Par exemple, le texte dit, dans le cas où l'entreprise aurait connu 6 mois de perte d'exploitation, elle pourrait se séparer de ses collaborateurs. 6 mois de perte d'exploitation, il y a beaucoup d'entreprises qui connaissent ça. Vous savez, c'est un critère très ouvert. Et mon problème avec cet article, c'est que je pense que s'il était validé dans les termes où il est écrit aujourd'hui, il conduirait très probablement à des licenciements et probablement à d'assez nombreux licenciements dans la première période. J'aimerais bien voir l'étude d'impact qui a sans doute été remise au Conseil d'État lorsque le texte lui-même lui a été soumis. En tout cas, la littérature économique sur le sujet montre que quand vous êtes en bas du cycle et que vous simplifiez les licenciements, eh bien ça produit des licenciements. C'est plutôt quelque chose qu'il faudrait faire en haut du cycle, à vrai dire, si on voulait obtenir l'effet recherché qui est plutôt des recrutements. Troisième point, il y a des dispositions dans ce texte qui vont à l'encontre de la défense de la négociation collective, puisque ce sont des dispositions qui renforcent le pouvoir unilatéral de l'employeur, notamment dans les très petites entreprises concernant l'organisation du temps de travail, en particulier le forfait jour. Je ne m'arrête pas sur ce point qui est très technique, mais c'est vrai que les syndicats ont vivement réagi, en particulier la CFDT, et je crois que c'était tout à fait légitime. Alors il y a aussi beaucoup de bonnes choses dans ce texte, en tout cas à mes yeux, notamment tout ce qui touche à la primauté de l'accord collectif sur le contrat de travail, dans les accords de maintien de l'emploi défensif ou dans les accords offensifs qui maintenant seront permis. Je ne détaille pas, mais ce sont des points qui me paraissent tout à fait souhaitables. Tout ce qui concerne la flexibilité interne en particulier me paraît souhaitable. Et puis, dernier mot, Philippe, je vois que vous commencez à vous impatienter, donc je presse le pas.
Je m'impatiente jamais, je fronce le sourcil.
Voilà, vous froncez le sourcil d'impatience. Je pense qu'il y a l'équilibre entre flexibilité et sécurité n'y est pas, si vous voulez. Moi, j'ai toujours milité pour la flex-sécurité à la française, comme le font les Scandinaves, mais avec les particularités de notre pays. Là, il y a beaucoup d'éléments de flexibilité. Il n'y en a sans doute pas assez dans le plateau de la sécurité. Et je pense qu'en particulier, ce qui concerne le compte personnel d'activité, qui est une excellente initiative, qui avait été annoncée comme la grande réforme sociale de la fin du quinquennat, ce compte personnel d'activité tel qu'il est présenté dans cet avant-projet est beaucoup trop maigre. Il devrait être renforcé, et je pense notamment qu'à destination des outsiders, comme on dit, du marché du travail, c'est-à-dire les chômeurs, les jeunes qui arrivent, beaucoup pourrait être fait en matière de dotation, de crédit de formation et de choses comme ça.
Nicole Niesoto.
Oui, alors, sur la forme, tout ce qui me frappe, c'est la capacité de ce gouvernement à fabriquer du clivage dans sa propre majorité. On a un président réputé l'homme de la synthèse, du compromis, de l'ambiguïté, et ce président propose des politiques qui sont tout à fait le contraire, qui divisent. La première, sur la déchéance de nationalité, a profondément divisé le Parti socialiste, et celle-ci, sur le code du travail, divise l'ensemble de la gauche syndicale contre le gouvernement, avec ce qu'a rappelé Thierry, une mobilisation citoyenne dont je pense qu'elle prendra de l'ampleur, les 500 000 signatures de la pétition de Madame de Haas, mais la mobilisation de l'UNEF, les jeunes, les étudiants, et on voit venir quelque chose pour le 10e anniversaire du CPE, qui pourrait, dans la rue, manifester une très forte opposition contre ce texte. Et, alors, ça, c'est un premier étonnement, cette capacité à cliver sa majorité. Mais ma deuxième remarque, c'est sur le fond. Moi, je trouve que cette réforme du Code du travail met le doigt sur la tension, pour ne pas dire plus, la tension extrême dans ce pays entre le travailleur et le chômeur, entre le monde du salariat et le monde du précariat. Parce qu'après tout, on peut interpréter ce texte de deux façons. D'un côté, vous avez le gouvernement, dont on sait, avec le président de la République, que son obsession, c'est la lutte contre le chômage, ne serait-ce que pour des raisons électorales, puisque le président a dit qu'il faisait de la baisse du chômage une des conditions de sa nouvelle candidature. Et donc, on peut interpréter ce texte en disant, en avalisant le raisonnement du gouvernement, qui est de dire, moins les entreprises se sentiront contraintes par le Code du travail, plus elles embaucheront, et donc plus le chômage baissera, ce qui me paraît un argument tout à fait recevable. Et de l'autre, en revanche, on a la mobilisation syndicale de tout le monde salarié, de tout le monde du travail, qui a l'argumentaire inverse et qui dit, plus les entreprises se sentiront sans contrainte par rapport au Code du travail, plus elles débaucheront, plus elles licencieront, ce qui fera augmenter le chômage. Mais moi, la vérité, je ne sais pas où elle est, mais ce qui me paraît étonnant, c'est que c'est paradoxalement le gouvernement qui devient d'une certaine façon le parti des chômeurs, et de l'autre côté, le monde syndical qui ignore complètement ces 3,5 millions de gens qui sont dans le précariat total. Et ça, je crois que c'est une caractéristique du système français. Et dernier point enfin, sur, je l'ai déjà dit mais je le répète, sur l'emballement citoyen et social possible, je crois qu'il ne... je regardais tout à l'heure une manifestation Facebook qui est en train de monter, de prendre de l'ampleur. Je crois que le printemps pourra être chaud.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je dois dire que les bras m'en tombent. J'analyse avec mes faibles moyens la vie politique depuis pas mal d'années. En général, je comprends à peu près ce que font les uns et les autres, plus ou moins bien. Quelquefois, je trouve qu'ils font des erreurs. Mais là, la séquence à laquelle nous assistons depuis plusieurs mois est vraiment incompréhensible. C'est-à-dire qu'on voit bien que le pari initial du président de la République est de reconstituer une majorité, du moins une minorité de gauche relativement homogène ou relativement unie derrière lui pour lui permettre d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. C'est un objectif, on voit bien tout ce qui découle de cela, notamment dans le remaniement, etc. Et ce qui se fait depuis 3 mois, mais contredit totalement cet objectif et aboutit à une déchirure de la gauche très profonde, totalement inutile, je l'ai dit, c'est parfois un léger désaccord avec Thierry là-dessus. Je crois qu'il y a une tension idéologique très forte à gauche, mais elle est en quelque sorte potentialisée, multipliée par ce qui s'est passé. Alors, on peut dire, et ce que reprend d'ailleurs Martine Aubry, dans son... Martine Aubry, que manifestement, c'est elle qui a tenu une bonne partie de la plume dans cette affaire, dans le manifeste qu'ils ont fait paraître au Monde. Et on voit bien que... c'est un texte bizarre, parce que, comme toujours, Martine Aubry ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle dit qu'elle ne sera pas candidat, elle dit qu'elle ne conteste pas la candidature de Hollande, elle a voté d'ailleurs avec Valls au congrès du Parti Socialiste il y a quelque temps, et en même temps, elle passe une série un passage à tabac, véritablement, de l'action gouvernementale. Mais dans ce passage à tabac, je veux dire que Valls, Macron et Hollande recueillent récoltent ce qu'ils ont semé. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit comme critique? Un, il y a la déchéance de nationalité. C'est une mesure donc qui est totalement inutile, qui est évidemment un conflit, un clivage idéologique ressuscité au sein de la gauche, puisque ça met en cause, elle le dit, c'est assez bien dit, l'égalité des Français. Donc implicitement, c'est une adhésion à la distinction entre le pays légal et le pays réel, la vieille distinction maurrassienne, qui est évidemment un cauchemar pour la gauche. Deuxièmement, elle met en cause, à juste titre, le discours de Munich du Premier ministre, qui est quand même incroyable que le Premier ministre attaque Angela Merkel, qui est une figure du centre droit, menant une grande coalition sur sa droite, Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, la formule d'Aubry est bonne en disant ce qu'on doit reprocher aux Européens, c'est de se défausser sur cette question de l'immigration, de ne pas la poser, de ne pas accepter de la poser. Donc là, on a évidemment un second tabou qui est franchi. Troisième tabou, la loi El Khomri. Et alors là, c'est vraiment, moi je suis à peu près d'accord, pas avec tout, je crois que c'est effectivement 130 pages, c'est très compliqué, il y a plein de choses qui sont à revoir, mais l'inspiration me paraît relativement saine, mais la façon dont c'est présenté, sans préparation psychologique, assortie d'une menace de passage au 49-3, c'est une manière, en réalité, de procéder à une triple agression, une agression du monde syndical. C'est évident, puisque c'est fait pour ça. C'est fait pour, en principe, faire appel aux salariés.
Vous voulez dire que ça rappelle la manière dont Martine Aubry avait fait passer les 35
ans? Oui, de ce point de vue, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Je me rappelle encore la façon dont Nicole Notta et BFA, dans une réunion de Notre Europe, s'en étaient pris amicalement, mais très fortement à Pierre-Alain Muet, qui était au cabinet de Jospin, à l'époque, pour dire « Mais c'est absolument incroyable ce que vous avez fait sur les 35 heures. » C'était quand même intéressant. Un patron plutôt ouvert à gauche comme BFA, et puis une syndicaliste réformiste comme Notta, il n'en pouvait mais en disant « Vous nous avez vraiment gâché le travail. » Bon, alors, en tout cas, c'est effectivement ça. Donc, on a une mesure de qui directement, et ça on comprend que ça soulève ça affaiblit considérablement le pouvoir syndical, ne serait-ce que par la négociation au niveau des entreprises et le référendum. Deuxièmement, c'est un affrontement à l'égard des salariés. Parce que on autant sécuriser le licenciement, etc. Là, en vérité, le mot d'ordre implicite, c'est travailler plus pour gagner moins. On réduit les indemnités de licenciement parce que c'est pas simplement le mode d'attribution, mais c'est qu'on les réduit. Et en plus, on réduit potentiellement le mode de rémunération des heures supplémentaires. Alors que je le rappelle, Sarkozy l'avait augmenté. On a oublié, même Fillon qui l'a fait, l'a oublié. Quand on détaxe fiscalement les heures supplémentaires, on augmente la rémunération. Et troisièmement, on s'en prend directement au personnel politique en disant de toute manière, on passera en 49-3, donc on constitue sa majorité dans une relation hostile. Idéologiquement, aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Il n'y a aucun discours de gauche. C'est moi, Valls, jeudi, et moi, Valls et Khomri, jeudi, je vote, je fais une politique qui est préconisée par le patronat, mais je n'ai aucun contre-feu. Alors qu'en réalité, ce qui manque à ce gouvernement, c'est un discours de gauche. Un discours de gauche qui montrerait à la gauche de la gauche actuelle à quel point elle se trompe en maintenant une conception bureaucratique, étatisante, anti-négociation, anti-partenaires sociaux de la politique. Donc tout cela me fait dire, quand même, je termine politiquement, qu'en face de ça, on est quand même en face de deux hypothèses, la nullité ou la perversité. C'est toujours comme ça avec le gouvernement. La nullité, je n'ose pas y croire. La perversité, qui est pervers? Est-ce que c'est Hollande pour se donner les moyens de dissoudre? Je ne le pense pas du tout, c'est pas son genre. Est-ce que c'est Valls pour se donner les moyens de partir? Peut-être. Mais alors là, comment tomber à droite quand on est un Premier ministre de gauche, c'est une figure totalement inédite. J'en perds mon latin.
François Bujon de l'Étang.
Alors, je suis encore saisi par la sortie de Jean-Louis, dans laquelle je peux souscrire à un certain nombre de choses. Mais je trouve, au milieu de toutes les remarques plutôt négatives des uns et des autres, moi je voudrais faire deux remarques positives. Après tout, c'est contre ma nature, mais je vais faire deux remarques positives. La première, c'est que je me réjouis qu'enfin on porte le débat sur un sujet important. Nous avons perdu les 6 derniers mois dans des débats inutiles sur la réforme constitutionnelle, sur l'état d'urgence, sur la déchéance de nationalité, sans parler du tout de ce qui est important, c'est-à-dire l'économie, l'emploi, la réforme. Ensuite, on a parlé du remaniement gouvernemental pour dire que ça n'en était pas un. Et voilà que maintenant, pour une fois, on aborde un vrai sujet qui est celui de la libéralisation du marché du travail et de la réforme de notre code du travail, notoirement impraticable de l'avis d'à peu près tous. Donc ça, c'est une première remarque positive. La seconde, c'est que le texte de Madame El Khomri comporte énormément d'imperfections et des quantités de choses sont à revoir ou à améliorer, mais fondamentalement, c'est un projet qui vise à la libération du marché du travail, c'est un projet progressiste, je dirais, sans lui afficher d'étiquette politique, mais comme tel, il est bienvenu. Il suit une ligne directrice, celle qu'a rappelé Thierry, qui est de favoriser les accords d'entreprise et le dialogue social à des niveaux supérieur à l'accord de branche, c'est une bonne chose. Il subordonne le contrat de travail à des accords de branche et à des accords d'entreprise, ce qui est une bonne chose. Et il s'inspire au fond d'exemples assez proches. C'est la réforme du travail qui a été réalisée en Espagne en 2012 et celle que M. Renzi a entrepris en Italie il n'y a pas longtemps, le Jobs Act, comme on dit en italien, paraît-il, qui est la réforme de M. Renzi. Et il faut reconnaître que les résultats sont là. La France, entre la mi-2013 et la mi-2015, a créé 57 000 emplois. L'Espagne, depuis sa réforme de 2012, en a créé 651 000. Et l'Italie, 288 000 au cours des 18 derniers mois. Donc les résultats sont là. Et le fait que la loi El Khomri cherche à s'engager dans cette voie est en soi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose qu'elle se situe dans un processus plus vaste. Il y a eu un processus important, marqué par le rapport Combrexel, puis par le rapport Badinter. Et on nous dit maintenant qu'une commission va travailler sur les suites qui s'étaleront sur 2 ans et qui enjamberont le quinquennat, comme dit Monsieur Valls. Donc au fond, il faut considérer que la loi El Khomri n'est que la première dans une série de lois qui auront sans doute pour objet de réformer le code du travail. Car là, il y a des sujets qu'on n'attaque pas, comme celui par exemple du contrat de travail. Alors, ceci provoque évidemment la levée de boucliers à laquelle on peut assister. C'était à prévoir. On ne peut pas toucher à des sujets aussi sensibles sans immédiatement provoquer une levée de boucliers de la part de tout ce qui est conservateur, au fond. Les syndicats, et Nicole a tout à fait raison de dire que les syndicats défendent les salariés contre les chômeurs. C'est vrai, c'est une force. Ce n'est pas une force de progrès, c'est une force de réaction. Toute l'ultra-gauche, bien entendu, et les dissensions du PS s'étalent au grand jour grâce à Madame Aubry et aux autres. Alors, ceci est dangereux. C'est d'abord dangereux sur le plan social, parce que dès lors qu'on appelle à aller dans la rue, on ne sait jamais où on atterrit. L'UNEF s'est associé, bien entendu, à la CGT, donc nous allons avoir les étudiants. Et voilà que les lycéens sont également interpellés, notamment par l'UNEF. Il y a le classique effet de contagion. Tout ceci est potentiellement dangereux, effectivement. Par contre, le fait qu'un éclaircissement puisse intervenir au sein du PS, où il y a une vraie ligne de fracture, nous le voyons très bien, est peut-être quelque chose d'un peu plus positif, au fond. Alors, il faut savoir si on va vers la rupture ou si on va, au contraire, vers le recul du gouvernement. Cela étant posé, il est difficile, évidemment, de ne pas s'interroger sur la méthode et sur les intentions. La méthode, elle peut surprendre. Proposer une réforme pareille dans l'extrême fin ou presque d'un mandat présidentiel à 14 mois d'une échéance présidentielle, c'est surprenant, puisque si bien même elle était votée telle qu'elle était et si elle favorisait l'emploi, on enverrait les résultats, bien entendu, que sur le moyen terme et non pas sur le court terme. Et tout ceci après avoir remisé le projet de loi Macron 2, qui devait aller en principe dans le même sens, et en l'accompagnant de déclarations très très fortes, comme celle du Premier ministre, effectivement, très très vigoureuse, et même de brandir la menace du 49-3, qui est évidemment un chiffon rouge. Donc je m'interroge sur la méthode, et là je rejoins un peu les commentaires de Jean-Louis. Et puis sur les intentions, je termine là-dessus, on se perd un peu en conjecture, effectivement. S'agit-il, dans l'esprit des promoteurs de cette loi, de parachever un virage social-démocrate qui aurait été entrepris un peu plus tôt dans le quinquennat? S'agit-il de pallier les frilosités précédentes, notamment sur ce terrain de l'emploi et du travail? S'agit-il de rechercher un socle plus réformateur et de le bien délimiter au sein du Parti socialiste, ou au contraire de pousser à l'épreuve de force? C'est vrai qu'on en perd un peu son latin.
Thierry Pêche.
Oui, c'est assez piquant ce matin d'entendre et Jean-Louis et François sur des modes différents expliquer au gouvernement ce que serait une attitude de gauche. Il appréciera très certainement.
J'ai toujours fait ça ici depuis des années. Je dis que le gouvernement ne va pas aucun discours de gauche.
Ça témoigne de votre souplesse d'échine.
On ne parle pas de souplesse d'échine. Ça vraiment.
D'accord. Excusez-moi, Jean-Louis. Je ne voulais pas vous offenser du tout.
Non, mais.
Alors, c'était.
Pas de soin à donner non plus.
Très bien. Alors, les syndicats que vous avez beaucoup chargés ne sont pas tous à la même enseigne. Ils ne pensent pas tous la même chose. La CFDT n'est pas exactement sur la ligne de la CGT. Tout le monde le sait. Et je pense qu'on ne peut pas dire d'un syndicat réformiste comme la CFDT qu'elle défend les salariés contre les chômeurs.
Cette remarque sur la CFDT.
Cette question du débat politique qui s'hystérise beaucoup, elle est dangereuse parce que le sujet est grave et on attendrait des responsables politiques. C'est normal qu'il y ait de l'émotion citoyenne, qu'il y ait beaucoup de signatures, qu'il y ait beaucoup de débats dans le pays là-dessus. Mais on attend des responsables politiques, y compris lorsqu'ils s'opposent, qu'ils fassent des propositions, qu'ils ouvrent des perspectives à ceux qui les suivent. Et là, je ne vois pas trop les propositions alternatives. C'est un sujet important. On peut pas considérer que donner la parole aux salariés dans une entreprise, donner plus de place à la négociation collective, c'est nécessairement une régression. Les gens ne sont pas des enfants, ne sont pas des mineurs, ils ont le droit de donner leur avis, ils ont le droit de participer. Moi, j'ai toujours été favorable à ce que la démocratie sociale ne soit pas simplement un jeu institutionnel national, mais aussi une réalité pratique sur le terrain. Et donc, je veux bien qu'on conteste ce point, mais qu'on propose autre chose. Et à ce moment-là, le débat deviendra intéressant. Sans doute, d'ailleurs, des propositions verront-elles le jour bientôt, et cessera-t-on à ce moment-là de s'envoyer des noms d'oiseaux. Jean-Louis, vraiment, je tiens à m'excuser formellement pour ce mauvais jeu. Je ne vous accusais pas du tout de flagornerie. C'est un mauvais mot. Et voilà. Non, je vous présente des excuses.
C'était très irréaliste comme accusation.
Voilà, absolument.
Je pense que le prochain Esprit Public se tiendra en latin afin que le traducteur puisse avoir le temps d'amollir les propos quand ils se durcissent. Jean-Louis Bourlange, un dernier mot.
Oui, non, mais je crois qu'il faut. Je voudrais dissiper un malentendu. Moi, personnellement, si j'étais parlementaire, moyennant un certain nombre de modifications relativement mineures, je soutiendrais ce projet. Je suis sur la même ligne idéologique et intellectuelle que François Bujon de l'Étang et que Thierry, quand il affirme effectivement que donner le pouvoir aux salariés par rapport aux syndicats, ce n'est pas forcément une régression.
Pas par rapport aux syndicats, aux salariés, y compris avec leurs représentants, je veux dire.
D'accord.
C'est pas une apologie du référendum, en tout cas.
Personne ne vous accusera jamais de manquer d'esprit de nuance. En revanche, ce que je considère que politiquement, c'est incompréhensible, et notamment, c'est ça que je voudrais dire en conclusion pour ma part, c'est que je pense que ça hypothèque très profondément l'avenir de la gauche, parce que ça montre qu'il n'y a pas de majorité de gauche. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'on est passé d'une opposition des frondeurs à une opposition du cœur. Regardez quelqu'un comme Danny Cohn-Bendit. Moi, j'ai travaillé énormément avec Danny au Parlement européen. C'est un libéral libertaire de gauche. C'est un homme qui était très attaché à des réformes de type allemande. C'est un homme qui, véritablement, est très soucieux d'unité européenne. Il est à contre-courant total des altermondialistes, bébés, nationaliste, etc., type Mélenchon. Eh bien là, parce que sans doute il a été atteint en tant que binational fondamental, il a été atteint dans quelque chose d'essentiel pour lui, il a quand même été viré de France par Marcelin, il se retrouve à signer le truc d'Aubry, et c'est significatif, je veux dire, c'est pas du tout, il est pas du tout sur une ligne extrémiste. Et Cambadélis, qui est quand même, alors lui, un manœuvrier trotskiste, etc., lui aussi, il attaque ça. Donc on a constitué une contre-majorité, et je pense que ça sera la grande hypothèque pour un candidat de gauche, quel qu'il soit, c'est avec qui demain gouverneras-tu ?
Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant au Conseil européen qui s'est tenu le 18 et le 19 février dernier et qui était consacré au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. La question des migrations qui devait également être traitée à ce Conseil fera finalement l'objet d'un autre sommet qui aura lieu le 6 mars entre l'Union européenne et la Turquie. Et la Grèce avait demandé à ses partenaires européens de ne pas fermer leurs frontières avant cette date, sous peine de bloquer les conclusions du sommet sur le Brexit. Dans une lettre envoyée au Conseil européen, à laquelle nous avions déjà consacré quelques réflexions ici, dans cette lettre envoyée le 10 novembre dernier, le premier britannique avait précisé les conditions du maintien du maintien de son pays dans l'Union européenne. Cette lettre et ses conditions concernaient la gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté et les prestations sociales, ainsi que la libre circulation. Sur la gouvernance économique, l'accord renforce le principe de non-discrimination envers les pays qui n'ont pas adopté l'euro. Les 28 se sont engagés par ailleurs à solidifier davantage l'intégration du marché unique en favorisant la compétitivité, notamment dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des services. En matière de souveraineté, David Cameron s'opposait à une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, une référence directe au traité fondateur de l'Union datant de 1957. Il a obtenu l'institution pour tous les États membres d'un système de carton rouge qui autorise des parlements nationaux, si 55% d'entre eux sont d'accord, à s'opposer à un projet législatif européen en cours d'examen. Ce mécanisme est jugé par les commentateurs compliqué à déclencher. À propos des prestations sociales, le Royaume-Uni a obtenu une clause de sauvegarde de 7 ans qui lui permet de réduire les aides sociales versées aux nouveaux arrivants sur son territoire au cours des 4 premières années de leur séjour. Par ailleurs, un système d'indexation des allocations familiales va être mis en place qui prendra pour référence le niveau de vie du pays où résident les enfants et non plus celui du lieu d'habitation des parents. Limitées d'abord aux nouveaux arrivants, ces mesures seront étendues à tous les immigrés à partir de 2020. À la suite des conclusions de l'accord, David Cameron a déclaré qu'il mènerait campagne contre le Brexit. Il a dû faire face cette semaine à l'opposition pro-Brexit menée notamment par le maire conservateur de Londres, Boris Johnson, dont le ralliement en faveur de la sortie de l'Union européenne a inquiété les marchés. La monnaie britannique a baissé de 2,4% lundi dernier face au dollar, son plus bas niveau depuis mars 2009. Mardi, 200 chefs d'entreprise ont signé une lettre commune soutenant Cameron et mettant en garde contre le Brexit. Le référendum qui se tiendra le 23 juin prochain décidera du maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Sur cette question, Nicole Niesoto.
Oui, alors, le Brexit, c'est quand même maintenant le mauvais feuilleton venu d'Angleterre. C'est un feuilleton qui dure depuis 3 ans, puisqu'il a, M. Cameron a commencé à en parler en 2013. C'est un feuilleton qui est peu réjouissant et qui risque... Et qui, oui, mais enfin, pour ce qui est de ce gouvernement-là, le référendum depuis 3 ans, et c'est un feuilleton qui risque de mal finir. Alors, on pourrait effectivement passer une partie de cette émission à décortiquer l'accord qui a été obtenu à Bruxelles au Conseil européen dans une espèce de psychodrame habituel, mais moi, je voudrais d'abord dire un certain nombre de choses. Premièrement, que cette histoire du Brexit démontre la montée de l'irrationnel en politique. Et un peu partout en Europe, et en particulier en Grande-Bretagne, toutes les études montrent que la Grande-Bretagne souffrirait énormément d'une sortie de l'Union européenne. L'Union en souffrirait aussi, mais la Grande-Bretagne en souffrirait énormément. Son commerce est à plus de 45% avec l'Union européenne. Elle va peut-être récupérer 16 milliards d'euros de participation budgétaire, mais il faudra que de toute façon le budget britannique compense la perte que certaines régions, en particulier l'Irlande du Nord, trouveraient d'une sortie de l'Union. Autrement dit, l'intérêt de la Grande-Bretagne est de rester dans l'Union européenne. Or, toute la classe politique, maintenant, il y a une espèce d'emballement qui fait que l'issue me paraît aujourd'hui extrêmement négative. Deuxièmement, le décalage extraordinaire entre la cuisine technocratique bruxelloise et la réalité des passions politiques. On a un Conseil européen qui passe plus de 48 heures à s'occuper de cette question britannique, qui arrive à un compromis qui est ni bon ni pas bon, qui est un compromis dans lequel effectivement chacun a fait un petit peu de concession. Monsieur Cameron sort du Conseil européen en disant c'est formidable, je vais avoir le meilleur des deux mondes et patatras. Mais immédiatement après, il arrive à Londres et la passion politique l'emporte. Le maire de Londres déclare qu'il va se prononcer pour le Brexit. Immédiatement, la livre, comme vous l'avez dit, chute à son plus bas niveau de 2009. 5 ministres du gouvernement quittent le gouvernement en disant qu'ils vont se prononcer pour la sortie de la Grande-Bretagne. Autrement dit, je crois que maintenant, il faut arrêter les frais. On n'aura pas le meilleur des deux mondes, on risque d'avoir le pire des deux mondes, c'est-à-dire le Brexit et la déconstruction de l'Union européenne. Et ça, je crois qu'il faut, maintenant que les Européens en prennent acte. Et c'est mon troisième point. Le Brexit, c'est une question de politique intérieure britannique. Il faut arrêter. de le considérer aujourd'hui comme une question européenne. Les Européens ont fait leur maximum, on a été parfait. Ça fait depuis 6 mois qu'on ne s'occupe que de ça. Le monde brûle autour de l'Europe, la crise économique qui arrive d'Asie, les réfugiés, la question grecque est loin d'être terminée, la montée de l'extrême droite en Europe. Or, on passe son temps à ne s'occuper que de la question britannique. Je signale entre parenthèses que M. Cameron a fixé le référendum le 23 juin, c'est-à-dire le jour du prochain Conseil européen. Et on va pas me faire croire que c'est par hasard que le référendum aura lieu encore une fois le jour où les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Bruxelles. Il y a véritablement une volonté de la Grande-Bretagne de monopoliser l'Europe sur cette affaire et je crois qu'il faut renverser les choses. On a fait le maximum pour les Anglais. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'occuper de la construction européenne et imaginer un plan B.
On pourrait le faire à Potsdam, ça serait bien.
Par exemple, on pourrait
démissionner en cours de route.
Il est grand temps de penser le plan B, c'est-à-dire la série d'accords bilatéraux qu'il faudrait peut-être faire avec la Grande-Bretagne si finalement il décide de sortir. Delors avait une phrase il y a 2 ans, il disait « La Grande-Bretagne est un gros frein dans une Europe qui a un petit moteur ». Et moi, je crois qu'il faut maintenant s'occuper du petit moteur et essayer de le faire marcher. Mais si les Européens s'inquiètent, continuent de s'inquiéter et sont prêts à faire d'autres concessions pour espérer que finalement la Grande-Bretagne reste dans l'Union, je crois qu'on fait une erreur absolument magistrale. Il faut maintenant considérer le Brexit comme une affaire de politique intérieure.
Notons en marge que quand un membre du cabinet britannique n'est pas d'accord, il donne sa démission, que quand un ministre français est nommé au gouvernement, il exprime son désaccord avec le gouvernement. François Bugeon de l'Étang.
Oui, je trouve que tout ceci est une drôle d'affaire, en effet. C'est une drôle d'affaire, d'abord parce qu'il y avait, dans la demande de renégociation de M. Cameron, c'est-à-dire une demande de concession à l'Europe, quelque chose de profondément dérangeant, vraiment, pour 3 raisons. D'abord parce que vous êtes généreuse, Nicole, en effet, quand vous dites que ça n'a empoisonné que les 3 dernières années. Ça fait 30 ans que le problème britannique empoisonne. Ça fait 30 ans, depuis 1973, le référendum de M. Wilson et Brown. Oui, enfin, je veux dire, c'est une saga, malheureusement, dont les épisodes se succèdent. Et personne ne sait, d'ailleurs, si jamais la Grande-Bretagne décide de voter contre le Brexit, si un autre épisode de ce genre ne va pas se reproduire dans quelques années. C'est une saga interminable. Puisque la Grande-Bretagne, au fond, ne se sent pas européenne, mais elle veut contrôler ce qui se passe sur le continent. C'est conforme, d'ailleurs, à l'histoire de la politique étrangère du Royaume-Uni depuis des siècles. Bon, ça, c'est une première raison. La seconde raison pour laquelle je trouve tout ça dérangeant, c'est que les demandes formulées par M. Cameron, si on y réfléchit, sont parfaitement outrecuidantes. D'une part, sur le fond, il veut faire une entorse au principe de libre circulation. Il veut être exonéré de la déclaration d'intention selon laquelle l'Union doit être sans cesse plus étroite. Il veut un droit de veto, au fond, sur les décisions de la zone euro, sans l'appeler comme ça. Et il refuse complètement l'idéal de l'intégration. Mais elles sont toutes recudantes aussi dans la forme. D'abord parce qu'il a imposé son calendrier, qui lui est dicté à lui uniquement par des considérations, en effet, de politique interne. Et il a pris en otage l'Union européenne pour régler son problème politique au sein du parti conservateur, au sein du parti Tory. Donc c'est effectivement, il me semble, outrecuidant. Troisièmement, parce que Cameron a imposé son agenda à une Union européenne qui a bien d'autres soucis, bien d'autres préoccupations et bien d'autres priorités. Et au fond, la demande britannique est arrivée comme des cheveux sur la soupe. Cette soupe constituée par les problèmes du jour, la Grèce, l'Union européenne, l'avenir de la zone euro, le problème des migrants, le naufrage de Schengen. Bon, les Européens ont autre chose à faire que de s'occuper des malaises, non pas de les leftless, mais du parti Tory. Et puis, voilà, maintenant, la scène s'est jouée à Bruxelles, le projecteur se déplace sur Westminster et sur la campagne référendaire. Alors, une remarque ici au passage pour dire que cette négociation que je considère, et beaucoup d'autres avec moi, comme importune, si elle a été importune, n'a été au moins ni trop longue, ni trop difficile. Bien sûr, il y a eu le psychodrame habituel, on a arrêté la pendule, on a travaillé toute la nuit, ça c'est le folklore bruxellois bien connu. Mais au fond, une fois que les limites à la négociation avaient été tracées, assez clairement d'entrée de jeu par la France et l'Allemagne. On ne veut pas toucher aux traités. On ne veut pas réviser les traités. Cameron, au fond, demandait assez peu de choses. Il a du coup été immédiatement critiqué par les eurosceptiques dans son propre pays pour n'en pas demander suffisamment. Et maintenant, les mêmes, évidemment, l'attaquent sur le fait qu'il n'a obtenu que la moitié de ce qu'il demandait, qui était déjà insuffisant. Donc il s'est mis inévitablement dans une position très difficile. Et maintenant, on se trouve dans une situation qui est vraiment étrange. Il est accusé, en effet, par les eurosceptiques, comme il est accusé par les pro-européens d'avoir créé un danger. L'issue de cette campagne référendaire est très incertaine. Le meilleur thermomètre, ce sont les bookmakers de Londres, et les bookmakers de Londres donnent le Brexit à 1-2. On est vraiment dans un débat à l'issue très très incertaine. Et puis, il fait face maintenant à des dissidences très coûteuses au sein de son propre parti, c'est vrai. Plusieurs membres du cabinet et non des moindres. Le maire de Londres, Boris Johnson, parce que Boris Johnson, dont je ne suis pas sûr que les convictions européennes soient très très fortes en réalité, a une conviction, c'est qu'il ferait un excellent successeur à M. Cameron à la tête du parti conservateur et que lui, il utilise le débat référendaire à des fins politiciennes, ce qui au fond n'est qu'un juste retour des choses puisque M. Cameron avait commencé.
Thierry Pêche.
Oui, c'est un peu very bad trip pour nos amis britanniques. Je rejoins pleinement ce qu'a dit Nicole et ce qu'a repris François. C'est-à-dire, je pense qu'on ferait mieux maintenant de ne plus s'en mêler, de ne plus trop s'y intéresser. J'ai même envie d'ajouter, on aurait mieux fait d'adopter cette attitude il y a un certain temps. Parce que tout de même, les efforts considérables qu'ont fait les partenaires européens pour aider Cameron dans son théâtre d'ombre, à prétendre qu'il voulait un Brexit qu'il ne veut pas, mais qu'il était prêt à lutter contre le Brexit qu'il a lui-même créé. Enfin bon, cette histoire est tout de même sans queue ni tête. La seule vérité qui tienne dans cette affaire, c'est qu'il a sacrifié l'Europe sur l'autel de sa réélection. C'est ça qu'il a fait. C'est un calcul personnel. On est enchanté de suivre collectivement son roman personnel, mais la fin du roman personnel risque d'être tragique. Parce que le bilan de Cameron dans l'histoire pourrait être marqué par des pertes considérables pour la Grande-Bretagne si elle sort de l'Union européenne, des pertes d'ailleurs plus grandes pour la Grande-Bretagne que pour l'Union européenne, soyons clairs. Moi j'attends toujours qu'on me démontre en quoi la sortie de la Grande-Bretagne est un vrai problème pour un pays comme la France ou pour un pays comme l'Allemagne, j'en suis pas sûr du tout. En revanche, je vois très bien pourquoi c'est un handicap pour la Grande-Bretagne. Donc des pertes considérables, la sortie de la Grande-Bretagne et le problème écossais derrière. Parce que ne croyez pas un seul instant que si la Grande-Bretagne sort de l'Union, l'Écosse applaudira, les Écossais remettront le couvert du débat sur leur indépendance et demanderont probablement un référendum parce que eux, ils entendent bien rester dans l'Union. Comme beaucoup d'ailleurs de régions qui ont des mouvements séparatistes importants, ces mouvements sont d'autant plus tranquilles et sereins qu'ils voient leur avenir dans l'Union. Donc tout ça est tout de même assez pathétique, déplorable, et bien maintenant qu'il se débrouille. Voilà, moi j'ai jamais tenu les discours comme a pu tenir quelqu'un comme Michel Rocard, disant bon vent. Bon, c'est pas ça. Je préférerais que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais faut pas pousser non plus. On a assez donné, et maintenant qu'il se débrouille.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que je crois que nous sommes assez convergents sur l'approche de cette affaire-là. Ce qui me frappe profondément, c'est comme d'ailleurs l'a dit Nicole, c'est le caractère totalement irrationnel de cette démarche britannique. C'est vraiment quelque chose qui ne correspond à rien. Le Brexit, ça ne résout rien pour une raison simple, c'est que l'Europe ne pose aucun problème aux Britanniques, sauf la liberté de circulation, mais je croyais qu'ils y étaient attachés. Ça ne pose aucun. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas dans Schengen. Ils ne sont pas dans la monnaie unique. Ils ne sont pas dans les contraintes de l'Europe judiciaire. Ils n'ont rien à gagner. Ils ont énormément à perdre en termes d'influence sur le continent et en termes de cohésion interne avec toutes les menaces qui viennent d'être rappelées par Thierry sur les possibilités de dislocation du Royaume-Uni. Donc ça ne correspond à, ça ne sert à rien, c'est inquiétant, C'est d'ailleurs pas bon pour nous non plus. C'est le type même du jeu à somme négative, du jeu où tout le monde perd. Et c'est totalement irrationnel. Quand on regarde à la télévision, on regarde les radios, enfin les télé-trottoirs, etc., ce que sortent les Britanniques pour justifier leur attitude est purement et systématiquement fantasmatique. On est dans une démarche d'un procès en sorcellerie contre l'Union européenne. Il s'agit pour que les Anglais, parce que ce sont les Anglais et pas les autres, pas les Écossais, pas les Gallois, pas les Irlandais, pour que les Anglais retrouvent la paix de l'âme, il faut qu'ils brûlent la sorcière européenne. Alors on est en face d'un procès en sorcellerie. Du coup, deuxième remarque, la stratégie de Cameron est complètement incompréhensible. Parce que la stratégie de Cameron vise d'une part à obtenir un compromis qui n'a aucun sens en réalité, ce sont des espèces de mesures pesées au trébuchet avec extrêmement subtiles, exactement ce dont les gens ne veulent plus entendre parler. Et il a sorti ça depuis le début d'un long cri de haine contre l'Europe. Il sort du compromis en disant « je n'aime pas Bruxelles ». Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un envisager de pouvoir gagner un référendum quand il commence à dire « le truc dans lequel je vous propose de rester, je vais vous le dire, de vous à moi, je ne l'aime pas du tout, c'est une chose abominable. Rentrez avec moi, restez avec moi dans cette chose abominable. » Je voudrais bien comprendre. Évidemment, il essaie de répondre à l'irrationalité, donc il est dans une situation, il a piégé tout le monde et il s'est piégé lui-même. Troisièmement, je trouve que les partenaires de l'Europe sont également en dessous de leur tâche. Ils sont en dessous de leur tâche d'abord parce qu'ils se sont prêtés à un compromis qui est vraiment, vraiment médiocre. Il est d'ailleurs très fragile juridiquement. On a dit on ne va pas changer le traité, mais la suppression de l'union sans cesse plus étroite renvoie à une modification ultérieure du traité. Ce sera plus tard, mais on le fera. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était une affaire de jurisprudence, qui avait toujours été le cas, de dire union sans cesse plus étroite, ça ne signifie pas, ça signifie qu'on s'entend mieux, qu'on se voit plus souvent, etc. Mais ça ne signifie pas qu'on étend les compétences de l'Union européenne. C'était acquis. La Cour de justice l'avait déjà dit. Ça ne pouvait pas être une base juridique pour une extension des compétences de l'Union. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Il y avait simplement un drapeau noir à agiter. Et donc on va être sur les allocations familiales, on peut discuter, et sur les allocations sociales, moi, je crois que le compromis s'expose à un recours devant la Cour de justice d'un certain nombre de particuliers, de Polonais ou d'autres, qui diront « et mon argent, mes allocations, etc. ». Or, ça contrevient assez directement, me semble-t-il, aux articles du traité de Rome sur la non-discrimination entre les nations. Enfin, alors donc ça ne résout évidemment rien. On ne sait pas qui gagne, ça paralyse. C'est exactement le compromis promu par Cameron. C'est exactement ce que les gens abominent dans l'Europe. C'est-à-dire un truc qui est pris par le Conseil européen à la va-vite, alors qu'on a une procédure extrêmement solennelle pour réviser les traités, qui est ignorée, des compromis auxquels on ne comprend rien, qui compliquent la chose, qui paralysent encore un peu l'Europe, et qui sont des demi-mesures incompréhensibles. C'est exactement ce qu'une manifestation d'hostilité devrait produire. Alors, simplement, ce que je voulais dire en conclusion, si vous m'y autorisez, c'est que dans cette affaire-là, surtout les Européens, nous sommes dans un jeu à la Pirandello où les acteurs ne jouent pas vraiment leur rôle. En principe, on a deux Europes. Deux Europes différentes, une Europe de la circulation qui était emmenée par les Anglais et une Europe de l'approfondissement communautaire, l'union sans cesse plus étroite, qui était emmenée par le couple franco-allemand. On s'aperçoit que les Anglais font entorse au principe de circulation, donc ils ne jouent pas leur rôle, et quant aux autres, ils sont dénués de toute ambition, si bien qu'au lieu d'avoir une véritable articulation entre deux Europes, qui aurait été la vraie négociation et qui serait le vrai plan B, on a une confusion générale, dont un jeu dans lequel tout le monde perdra, car là où je ne suis pas d'accord avec Nicole, ce n'est pas un jeu intérieur britannique, ça aura un retentissement très fort à l'intérieur de l'Union, sur la Suède, sur le Danemark, sur les pays d'Europe centrale et orientale. Déjà les Tchèques ont dit que le problème du Grexit, du Tchèksit se posera. Ça ne sera pas sans retentissement, donc ce n'est pas... Mais simplement pour faire échec à ça, il faut afficher la cohésion de la vieille communauté autour du couple franco-allemand. Et là, ni Merkel, ni Hollande, pour des raisons différentes, ne paraissent en mesure de le faire.
Nicole Nisotto.
Merci Philippe de m'avoir laissé.
Je me suis stupéfait de votre capacité. capacités pulmonaires.
Non, Jean-Louis, je n'ai pas dit que ça serait sans conséquences pour le reste de l'Union européenne, mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les conséquences seront totalement négatives sur le plan politique, c'est-à-dire quand la Grande-Bretagne se retrouvera hors Union, avec toutes les difficultés qu'elle aura effectivement à assumer, à renégocier, peut-être que les Tchèques et autres Suédois se poseront des questions sur leur propre sortie vis-à-vis de l'Union européenne. Juste deux points. Quand on regarde les forces en présence, et pour montrer à quel point tout cela est irrationnel, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, vous avez la monarchie. Le prince héritier s'est laissé aller à avouer qu'il aimerait bien que la Grande-Bretagne reste dans l'Union. La City. L'ensemble de la City, et en particulier, il y a eu cette lettre des 200 plus grandes entreprises britanniques demandant de rester dans l'Union européenne. Obama. Le président. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils aimeraient bien... Non, mais... qu'il aimerait bien que la Grande-Bretagne reste dans l'Union. Autrement dit, on a là une partie de force importante qui souhaite le maintien dans l'Europe. De l'autre côté, vous avez les appareils. La moitié du Parti conservateur, la moitié du Labour, puisque le nouveau leader du Labour, M. Jeremy Corbyn, est quand même tout à fait sur une ligne anti-européenne. UKIP, qui a fait effectivement 25% de voix aux élections européennes de 2012, mais qui a beaucoup perdu aux précédentes élections. Et puis la presse, évidemment, la presse britannique. Mais quand on regarde ces deux camps, alors on peut se dire que normalement, les forces vives qui produisent de la richesse dans ce pays devraient l'emporter, c'est-à-dire rester dans l'Union, mais l'irrationnel étant tellement fort que les partis et la presse pourraient gagner. Dernier point, je voudrais juste vous donner une très jolie citation. Si les pays européens parvenaient à s'unir, leurs 300 à 400 millions d'habitants connaîtraient, par le fruit d'un commun héritage, une prospérité, une gloire, un bonheur qu'aucune borne, qu'aucune frontière ne limiterait. Il nous faut ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe. Alors ça n'est pas du Victor Hugo, c'est du Winston Churchill à l'université de Zurich en 1946.
François Bujon-Mattan.
Juste une remarque extra-européenne pour dire que si on s'éloigne de l'Europe et qu'on essaye de penser au regard que les autres posent sur l'Europe, on mesure à quel point tout ceci est dommageable et désastreux. Si vous lisez la presse américaine, par exemple, qui depuis des années, à propos des convulsions de l'euro, de la Grèce et tout ce qui s'ensuit, attend l'explosion de la zone euro incessamment, si vous suivez ce que pensent les gens d'Extrême-Orient, les Chinois, les Japonais, les Coréens, qui pensent dans l'ensemble du bien de l'Europe et qui considèrent que l'Europe a été un progrès historique, que certains Asiatiques envient d'ailleurs, vous voyez bien que l'effet de tout ça est extrêmement dommageable, parce que cela renforce l'impression de fragmentation, de délitement de l'Europe, qui est donnée pour l'instant par d'autres sujets. La Grèce, bien entendu, les migrants, tout le monde souligne le désarroi de l'Europe, et le fait que la Grande-Bretagne puisse ou soit à deux doigts de sortir est évidemment quelque chose qui aura un considérable impact, et même si ça a un impact économique limité en Europe, ou un impact politique plus grand en Grande-Bretagne que dans le reste de l'Europe, ça aura dans le monde un impact important sur l'image d'une Europe qui se délite. Voilà. J'ajouterais simplement une ultime question pour aller, pour une fois, et contre mes propres sentiments dans le sens de M. Cameron, qui croit encore à une union sans cesse plus étroite ?
Je vous remercie, et sur cette question... Nous allons passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir pour compléter, terminer celle si confuse que j'ai fait la semaine dernière sur le livre de Jean-Paul Kaufmann, Outre-Terre. Donc, 200 ans après la bataille d'Eylau, la famille Kaufmann, le père, la mère et les deux garçons vont sur place. Le père, pour poursuivre une réflexion sur Napoléon, qui est déjà en elle-même une bonne raison de lire ce livre, parce que, évidemment, Napoléon, ou bien il est... Le cas Napoléon est réglé une fois pour toutes par un certain nombre de gens qui, dans le pire des cas, vous expliquent que c'était Hitler et que, dans d'autres cas, vous disent « de toute façon, il n'y a que des batailles ». Et Jean-Paul Kaufmann fait partie de ceux qui sont troublés par Napoléon, qui n'en pensent pas tous les jours la même chose, mais qui cherchent toujours à savoir comment on peut un peu mieux approcher la vérité du personnage. Hello. Kaufmann décrit la bataille d'une manière absolument formidable qui fait penser à ces panoramas auxquels il fait allusion, qui étaient des présentations circulaires d'événements au milieu desquels on pensait se trouvait presque au cœur de l'événement, si j'en crois la description qu'il en fait lui-même. Et puis le colonel Chabert. Le colonel Chabert est mort à Hello, sauf qu'il n'est pas mort, qu'il est passé, il a réussi à creuser un tunnel sous les cadavres sur lesquels il était enseveli. Il revient et il n'existe plus quand il revient. Jean-Paul Kaufmann a été 3 ans otage dans des conditions qu'on connaît. Il n'est pas le colonel Chabert, car quand il revient, son épouse est toujours son épouse, et même c'est considérablement battu pour qu'il revienne. Cependant, il sait ce que c'est que de retrouver une place au milieu de gens qui, d'une certaine manière, avaient dû envisager, peut-être même s'habituer à la disparition de quelqu'un. C'est-à-dire comment on reconquiert son existence et comment on retisse les liens avec ses plus proches. Tout ça sont quelques-uns des sujets qui tissent ce livre, avec, encore une fois, le style, je l'ai dit la semaine dernière, de Jean-Paul Kaufmann, que tout le monde connaît, et qui fait que c'est un livre qu'on lâche fort difficilement. Nicole Niesoto.
Oui, alors, en liaison avec notre thème sur la Grande-Bretagne, moi je voudrais rappeler le petit ouvrage de Pauline Schnapper, Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne, qui a été publié en 2014 à la Documentation française et qui est vraiment un petit ouvrage qui fait le point de tous les avantages inconvénients de cette question. J'ajoute d'ailleurs qu'elle vient d'écrire un article dans le numéro 150 de la revue Politique Internationale, l'article qui s'appelle « Le pari risqué de David Cameron » et qui est là et vraiment politiquement up to the point sur cette question.
Thierry Pêche.
Eh bien, moi, je suis avec consternation jour après jour les événements qui accompagnent le renouvellement de la présidence de la FIFA. Ce sport populaire qui enthousiasme des centaines de millions de gens est organisé institutionnellement par une mafia qui non seulement révèle chaque jour un peu plus sa mesquinerie, son goût du lucre, etc., mais aussi sa capacité à se renouveler. Donc, gageons que malheureusement, le cauchemar va se poursuivre. Mais merci toutefois à la justice américaine d'avoir ouvert quelques portes qu'aucune autre justice au monde jusqu'ici n'avait réussi à ouvrir. Il y en a probablement encore à pousser.
François Bujon de l'Étang.
Je voudrais dire un mot d'un livre qui est controversé, mais qui a constitué, ou qui constitue plutôt, un pavé dans la mare, militaire et dans la mare de la défense. C'est le livre du général Desportes, qui s'intitule « La dernière bataille de France » et qui est publié chez Gallimard dans la collection « Le Débat ». Le général Desportes s'est fait connaître par un certain nombre de déclarations iconoclastes dans l'ensemble, dans le milieu militaire, mais son propos est très simple, il consiste à dire que l'armée française est davantage employée qu'elle ne l'a jamais été à des missions extraordinairement diverses, et que pendant ce temps-là, l'outil de défense a été complètement négligé par plusieurs présidents, plusieurs gouvernements successifs, et qu'il y a une contradiction flagrante entre les ambitions et les moyens. Et non seulement il incrimine, bien entendu, le corps politique d'avoir restreint les moyens de la défense tout en demandant à celle-ci d'assumer des missions de plus en plus précises, délicates et importantes, mais il met en cause en outre la hiérarchie militaire à laquelle il reproche son trop grand silence ou sa trop grande discrétion. Ceci explique que son livre ait été extrêmement controversé dans les milieux intéressés, mais il est extrêmement intéressant, il pose très très bien l'équation difficile qu'est celui d'assurer de façon décente les crédits de la défense dans un moment où on a de plus en plus besoin de la grande muette.
Jean-Louis Bourlange.
Moi, j'avais failli citer aussi Pauline Schnapper, mais comme je l'avais déjà fait il y a quelques mois, donc ce qui est très bien, c'était actuel. Moi, dans le même esprit, je voudrais citer un livre qui est paru dans Nouveau Monde Poche, qui m'a été offert par un diplomate polonais attaché profondément à l'insertion brillante de la Pologne dans son pays, et qui est la réédition des réflexions de François de Calière, qui est un diplomate de l'époque de Louis XIV, qui est présenté sous le titre « L'art de négocier sous Louis XIV ». Alors, François de Calière est un diplomate qui a beaucoup servi aux époques très dures, notamment il a joué un rôle important pour la paix de Ryswick, qui a fini une des guerres les plus dures de Louis XIV, c'est la guerre de la ville d'Augsbourg. Et il a également joué un rôle important dans la résolution de la guerre de succession d'Espagne, qui a été quand même le moment le plus atroce. Mais ce livre est dédié au régent. Il est écrit après la mort de Louis XIV, et ce n'est pas par hasard qu'il est dédié au régent. C'est parce que, en fait, François de Calière montre En fait, il y a une réprobation derrière de la politique de Louis XIV, et il y a l'idée que l'Europe, c'est quelque chose qui compte, s'il ne le dit pas comme ça, que la diplomatie est un agent de civilisation, et que le bon diplomate, c'est celui qui comprend les autres, qui prend en compte les intérêts légitimes de ceux d'autrui, et qui les assume dans la propre définition de sa stratégie nationale. Bref, très exactement le contraire de ce qui se fait aujourd'hui. Il faut lire François de Calière pour se souvenir que il peut y avoir une diplomatie positive.
Parce que c'était l'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Manon Houssin. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Alain Kruger. On ne parle pas la bouche pleine, et retrouvez-nous si vous voulez bien la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne.